Mina Daoudi, moi je suis née à Dreux, hôpital Victor Jousselin comme beaucoup d'entre vous. J'ai grandi aux Vauvettes, donc à Vernouillet, une partie de mon enfance. Et puis ensuite, quand j'avais 10 ans, mes parents ont décidé qu'on aille un peu dans la ruralité. Donc du coup, on est allé sur Saint-Rémy-sur-Avre. Donc, où j'ai fait mes études donc, à Rotrou. Et ensuite, j'étais à la fac à Tours. Moi, je suis native de Dreux, je l'ai dit. J'ai deux petits frères, donc, dont un qui est décédé au mois de décembre. Et mon autre frère qui est également ingénieur en aéronautique. Donc du coup, moi, je suis directrice de la mission locale depuis 13 ans. Avant ça, j'étais directrice adjointe. Et avant d'être directrice adjointe, je travaillais dans une agence d'intérim qui s'appelle ADECO à Dreux. Et donc, du coup, pour le compte Philips. Et en fait, du coup, je connais tous les gens qui ont travaillé à Philips. Mes parents ont travaillé à Philips. Ma mère a été l'une des premières femmes à être cariste. Donc, du coup, ce côté un peu féministe, je crois qu'il vient d'elle. Parce qu'elle a fait un métier d'homme pendant 40 ans pour pouvoir nous nourrir, tout simplement. Donc, du coup, et mon père a également travaillé chez Philips. Donc, du coup, l'inspiration, on peut l'avoir, l'envie et la valeur travail. Moi, je parle souvent de valeur travail. La valeur travail, elle t'est donnée et elle t'est communiquée et transmise par tes parents, mais pas que, qui se lèvent tous les matins pour nous faire manger. Et donc, du coup, ça t'interroge sur toi, ça t'interroge sur tes envies, ça t'interroge sur tes ambitions. Moi, pour payer mes études, j'ai travaillé dans une usine. Donc, du coup, est-ce que j'avais vraiment envie de faire ça toute ma vie ? Non. Honnêtement, ça me motivait encore plus pour faire des études, pour pouvoir réussir, parce que je ne me voyais pas travailler toute ma vie dans une usine. Je ne me voyais pas faire ce que mes parents faisaient pour nous nourrir. Et donc, du coup, tu te rends compte après que tes parents font des sacrifices pour que leurs enfants réussissent. Et c'est ça, en fait. Il y a cette notion-là de sacrifice. Moi, je parle de génération quelquefois sacrifiée, la génération de nos parents, parce que tes parents, ils te veulent du bien. Donc, du coup, ils font tout pour que tu puisses réussir. Et nous, en tant qu'enfants, parce qu'on restera toujours les enfants de nos parents, on n'a pas le droit de décevoir ça, nos parents. Parce que quelquefois, on fait des choses conscientes ou inconscientes, mais juste le fait qu'ils se défoncent pour nous, eh bien du coup, on n'a pas le droit de décevoir. Et moi, j'ai grandi avec le regard de mes parents où je ne veux lire que fierté, pas déception. Et c'est ça qui me motive et me fait que je me lève tous les matins en me disant « je veux que mes parents soient fiers de moi ». Et à mes yeux, il n'y a que ça qui compte. Merci. Alors mon travail c'est quoi ? Mon travail c'est d'aider les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire. Donc du coup quand on sort du système scolaire, on n'est pas à l'école. Certains on n'a pas envie quand on a votre âge en disant ouais l'école ça me saoule, l'école ceci, l'école cela. Néanmoins l'école c'est l'école de la République. Moi je rappelle toujours qu'il y a des enfants dans les pays du monde, qui n'ont pas accès à l'école et qui rêvent d'aller à l'école. Moi, je le dis tout le temps, parce qu'en fait, comme c'est acquis, comme on a l'école, nous, on ne se rend pas compte que pour nous, c'est une chance. Et au final, c'est une chance d'aller à l'école. C'est une chance d'apprendre. Moi, j'ai du respect pour les enseignants, j'ai du respect pour le corps enseignant, peu importe, les pions, tout ça, j'ai du respect pour eux. Parce qu'en fait, ils font un travail qui nous permet de nous élever, nous enrichir. C'est ça qui est extraordinaire. Regardez, aujourd'hui, ça nous a permis de nous rencontrer. Donc c'est une belle initiative, même si moi je rencontre des jeunes de 16 à 25 ans tous les jours. Donc je connais bien les problèmes de notre population, je connais bien les problématiques des jeunes, et je me lève chaque matin, tous les jours que Dieu fait, je me lève en disant quoi ? En disant qu'est-ce que moi je peux apporter à ces jeunes de 16 à 25 ans. Alors, la problématique, elle est quoi ? Elle est multiple, la problématique des jeunes. La mobilité, d'avoir le permis de conduire. Donc la mission locale, on paye le permis de conduire. Mais la première des choses, le premier frein que rencontrent nos jeunes, la méconnaissance aujourd'hui du monde du travail. Donc du coup, ça fait partie des premières difficultés. Comment je me comporte en entreprise? C'est ça la problématique. Et donc, du coup, le bon comportement à avoir. Le bon comportement à avoir à l'école. Le bon comportement à avoir en stage. Le bon comportement à avoir en entreprise. Le bon comportement à avoir dans la société. Ça, c'est hyper important. Et c'est la première problématique qu'on peut aujourd'hui rencontrer. Alors, la mission locale, on s'occupe des jeunes de 16 à 25 ans. Donc, pour trouver un emploi, une formation, résoudre les problèmes de mobilité, résoudre les problèmes d'argent, comme tu l'as dit tout à l'heure, résoudre également les problèmes de santé, résoudre les problèmes de logement ou d'hébergement pour les jeunes qui sont sans domicile fixe. Donc ça, c'est important. Et puis, d'orientation. C'est-à-dire, l'orientation, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, mais du coup, j'ai fait mécanique automobile, j'aime pas, je veux faire autre chose. Et donc, du coup, on va travailler avec le jeune pour savoir qu'est-ce qu'il a envie, de quoi il a envie, de quoi il a envie.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler à la mission locale?
En fait, je l'ai dit, j'ai travaillé en intérim avant ça. Et du coup, je pense qu'on est venu me débaucher. Donc, c'est l'ancien directeur qui est venu me dire, voilà, on a besoin de quelqu'un pour faire, pour mettre en emploi les jeunes. Et en fait, la première semaine, quand je suis venue à la mission locale, ma première situation, je suis tombée sur un jeune de 16 ans qui dormait dans les cages d'escalier. Et honnêtement, je m'en souviendrai toute ma vie, parce qu'en réalité, je pensais que c'était un bizutage qu'on me faisait à la mission locale. Et j'étais persuadée qu'à 16 ans, un gamin, il ne pouvait pas être dans la rue, à mendier, à pas avoir d'argent. Et donc, je suis arrivée à la mission locale, peut-être en me disant, et des fausses idées, je pense. Et je me suis dit, je vais arriver à la mission locale, je vais te mettre tout le monde en emploi, ça va être facile, ça va être super, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. À 16 ans, on peut être sans domicile fixe, à 16 ans, on peut mendier, à 16 ans, on peut être sans soutien familial. Et là, j'ai pris conscience du rôle qu'était la mission locale. Et donc, je me suis accrochée parce que je pense que je vivais dans un monde de Candide. Même si on est né à Dreux, on ne connaît pas les problématiques du bassin. Tant qu'on ne les vit pas, on ne le connaît pas. Et donc, et moi, je suis extrêmement exigeante à tous ceux qui rentrent à la mission locale, travaillent à la mission locale. S'ils n'ont pas la même passion que moi, s'ils n'ont pas la même motivation que moi, s'ils n'ont pas la même détermination que moi, s'ils n'ont pas l'envie que nos gamins réussissent, ils n'ont rien à faire à la mission locale. Donc du coup, je suis exigeante et pour mes salariés, pour moi-même déjà, je suis extrêmement exigeante avec moi-même, avec mes salariés et également avec tous ceux qui entourent la mission locale. Parce que on a l'avenir de nos gamins entre nos mains et on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'avenir de nos gamins.
En quoi consiste votre métier de directrice de mission locale? Quelles sont vos principales tâches?
Elles sont variées. On est directeur des ressources humaines, directeur financier, directeur de projet. Tout ça, c'est... on met en place des actions, on pilote les actions, on coordonne les actions. Mais tout ça dans le but de rendre autonome le jeune. Donc ça peut paraître abstrait comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de... les jeunes ont une problématique. Et donc, du coup, c'est à nous de trouver les solutions pour que les jeunes n'aient plus cette problématique-là. Donc il faut aller quelquefois chercher l'argent, et l'État est le principal financeur de la mission locale, à 80% c'est l'État, et les collectivités interviennent après. Donc c'est action, chercher de l'argent, manager, et puis surtout être tout le temps en contact avec la population jeune. Je passe beaucoup de temps avec les jeunes et les entreprises.
Quelle est la journée type d'une directrice de mission locale?
Alors déjà, on ne fait pas 7 heures par jour. on n'a pas forcément de week-end. On est à 6h30, on est déjà en train de travailler. On a déjà passé plusieurs fois nos mails, on écrit des mails, etc. Donc j'en suis à ma quatrième tasse de café à 7h30. Ensuite, je prépare le petit-déj de mon fils que j'amène à l'école après. Et ensuite, là, commencent les rendez-vous, commencent mes entretiens, mes visites en entreprise, mes visites chez les partenaires, beaucoup de réunions. Et puis, une fois que la journée est passée, je récupère mon fils, on fait les devoirs, la douche, il mange. Et après, quand il va dormir, je reprends mon ordinateur et là, je bosse encore. Donc, du coup, je bosse généralement jusqu'à 23 heures et ensuite, je me couche.
Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ?
J'ai aucun inconvénient. À faire mon métier, aucun inconvénient. La passion, elle te transcende, je pense, et tu fais abstraction de plein de choses. T'es parasité, mais t'en as rien à faire. Tu sais que t'as un objectif, tu sais que ce que tu dois faire, et donc tu te laisses pas parasiter. Toi, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu vas faire. L'avantage, c'est que t'es en contact avec les financeurs, les décisionnaires, les maires, l'État, les partenaires. C'est extrêmement enrichissant de voir autant de monde autour d'une table. Et puis, je ne sais pas s'il y a une question sur les amis, je ne veux pas anticiper sur les amis, mais quand on fait ce travail-là, il est important d'être... Mais ça, c'est pareil dans la vie aussi. Dans votre vie au quotidien, c'est hyper important. Choisissez vos amis. Les amis qui te poussent vers le haut, pas des amis qui te poussent vers le bas. Ça, c'est important. Hyper important. Et donc, du coup, pour avoir cet équilibre ou bien pour avoir c'est de se sentir soutenu, pas par 15 000 amis, parce qu'on n'en a pas 15 000 des amis, on a beaucoup de connaissances, mais très peu d'amis, mais une poignée d'amis qui, aujourd'hui, quand tu n'es pas bien, tu peux les appeler, et l'inverse, c'est-à-dire que eux, quand ils sont pas bien, ils peuvent t'appeler. Et je pense que ça fait aussi partie de notre équilibre. Sans parler de la famille, évidemment, mais que je mette pour l'instant de côté.
Que préférez-vous le plus et le moins dans votre fonction ?
Moi, j'aime tout dans ma fonction, mais ce que j'aime le plus, c'est d'être en contact avec mes jeunes. C'est vraiment pour moi essentiel. En fait, vous vous rendez pas compte, mais alors nous surtout, moi je demande, parce qu'on fait des actions pour les jeunes, mais du coup avec les jeunes, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et moi j'interroge beaucoup les jeunes pour savoir ce qu'ils pensent de ça, ce sur quoi on doit aller tendre, s'améliorer. Donc du coup j'interroge beaucoup les jeunes. Et en fait, vous avez la capacité d'être hyper pragmatique. En fait, vous avez la capacité de voir des choses que nous, on ne voit pas alors qu'on est dans des dossiers H24. Et en fait, ce que vous dites, c'est tellement clair, c'est tellement limpide, c'est tellement logique que du coup, je me dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé ? Et donc, du coup, j'interroge tout le temps ma population.
Est-ce que votre famille était d'accord avec vos choix professionnels et vous a encouragé ?
Ah bah, mais moi, j'ai de la chance d'avoir des parents comme les miens. J'ai beaucoup de chance. Ils m'ont toujours soutenue, encouragée. Donc du coup, en fait, je le dis tout le temps, mais je leur dois tout. Donc tout, et sur plan professionnel, et sur plan humain, et sur le plan personnel. Moi, j'ai un respect infini pour mes parents, infini. Et en fait, c'est eux qui te disent, là tu dois y aller, là tu dois pas y aller, là c'est bien, là c'est pas bien. Et moi, mes parents, je les ai toujours écoutés, toujours. Dans toutes mes décisions, je leur ai demandé, mais des décisions même anodines, je leur ai toujours tout demandé. Et du coup, c'est aussi eux qui ont tracé ce chemin, et c'est aussi eux à qui je dois ce que je suis aujourd'hui.
Travaillez-vous seul ou en équipe ?
En équipe. J'ai un management qui est pas du tout vertical. J'ai un management qui est plutôt participatif. Donc du coup, j'interroge tout le temps. Je l'ai dit tout à l'heure, mais j'interroge mes jeunes et mes équipes. Parce que on a beau être directrice, on ne connaît pas tout. C'est pas vrai. Une bonne directrice, c'est celle qui s'entoure des bons. Une bonne directrice, c'est pas la connaissance de tout et de tous les sujets. Une bonne directrice, c'est celle qui va prendre les meilleurs. Et ensuite, ils vont lui donner les bonnes solutions ou bien les bonnes idées. Mais c'est ça, être une bonne directrice. Moi, je veux juste saluer, c'est Siam Elou qui est derrière. Donc du coup, c'est ma chargée de communication à la mission locale. Siam, elle habite au Vauvette. Bon, c'est pas un secret. Moi aussi, je vous ai dit que j'étais des Vauvettes, mais du coup, c'est une coïncidence. Hein. Et quand je suis partie des Vauvettes, elle n'était pas née. Donc, du coup, et en fait, elle a un master 2 en communication et management. Donc, du coup, voilà, c'est ça, être entouré aujourd'hui de la richesse. Moi, je prends des salariés, mes salariés, ils habitent Dreux, Vernouillet, la rurale. Je prends que des gens du cru, je prends des gens compétents, je prends des experts, c'est hyper important. Mais ceux qui sont nés, qui connaissent aussi notre territoire et notre population. Donc, plutôt un management participatif.
Quel métier aviez-vous avant celui-ci ?
Avant d'être travaillé à la mission locale, je travaillais chez le groupe ADECO. Et donc, du coup, le groupe... Vous savez ce que c'est que l'intérim ? Non ? L'intérim, c'est une entreprise qui va recruter des gens, donc du personnel, pour les mettre dans une autre entreprise. C'est ça, l'intérim. Donc du coup, tu peux avoir le groupe ADECO, Crit Intérim, Randstad, Inhouse, enfin bon bref. Et en fait, vous allez dans l'intérim, pour ceux qui ont l'âge, vous vous inscrivez dans une agence d'intérim pour travailler l'été, par exemple, c'est possible, pour payer vos études. Et donc du coup, et vous allez travailler dans une autre entreprise et c'est cette agence qui va, vous rémunérer. Voilà.
Combien de jeunes accueillez-vous chaque année ?
5 800, tous les ans. Donc on est l'une des plus grandes missions locales de la région centre. Donc il y a Tours, Orléans et après il y a Dreux, avec une quasi équité, donc pareil que les hommes, pareil que les femmes. On est presque pareil.
Comment aidez-vous les jeunes à s'en sortir ?
C'est une belle question. C'est une belle question et malheureusement la solution, elle n'est pas si simple. Elle n'est pas si simple parce que on peut avoir plus Un jeune peut avoir plusieurs freins, plusieurs difficultés. Donc, quand on sort de l'école et qu'on n'a pas de diplôme, ça peut être une difficulté. Et donc, du coup, le jeune, il va falloir qu'il se forme. Donc ça, c'est l'une des premières difficultés. Après, il peut ne pas avoir de permis de conduire. Il peut pas avoir d'argent, comme il l'a dit tout à l'heure, d'argent pour financer son permis de conduire. Donc nous, on va arriver, on va lui financer le permis de conduire. Donc du coup, il peut avoir des difficultés de posture, c'est-à-dire de professionnel, c'est-à-dire le bon comportement à avoir en entreprise. Et ça, c'est un peu long. On n'a pas tout de suite les bons comportements à avoir. Et puis tout à l'heure, tu disais connaissance, expérience. Tu as raison. Ça, c'est une des difficultés. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier les stages, les immersions en entreprise. Donc tout ça, c'est un peu long. Ça ne va pas se faire tout de suite comme ça, en un claquement de doigts, même si j'aimerais. Et puis ça va dépendre aussi, et je crois que c'est le plus important, ça va dépendre de la motivation que vous allez avoir à faire quelque chose. Si tu te lèves le matin à 2h, enfin tu te lèves à 14h, parce que tu as joué à Fortnite toute la nuit, ou à FIFA 2023 toute la nuit, ou bien sur les réseaux sociaux toute la nuit, compliqué de se lever le matin à 7h. C'est difficile. Et donc, du coup, on va dormir à 14h. La journée à 14h, elle commence. Non, la journée à 14h, elle ne commence pas. L'avenir appartient à celui qui se lève tôt. L'avenir appartient, même si on n'a rien à faire dans la journée, il faut se lever à 7h. Même si tu n'as rien à faire dans ta journée, tu te lèves tôt. Parce que déjà, et tu t'habilles, pas rester en pyjama. Le truc horrible, ça. Donc du coup, il faut d'ores et déjà se lever et être quand même en mouvement. Si tu es déjà lavé, habillé à 7h du matin, tu vas vouloir sortir, tu vas vouloir faire quelque chose. Si tu te lèves à 14h et puis tu restes en pantoufle jusqu'à 17h, 18h et après tu sors, bah, à 18h, tout le monde est fermé. Hein. Donc non.
Quel est votre parcours ? Faut-il des études particulières pour occuper votre poste ?
Honnêtement, si vraiment, vraiment, vraiment je suis hyper, hyper, hyper transparente, je pense que, oui, j'ai fait des études, j'ai mon expérience, mais je pense que si on m'a mis à ce poste de directrice, c'est aussi parce que j'avais cette personnalité qui faisait que je ne lâche rien et que les gens qui m'ont recrutée se sont dit c'est elle parce qu'elle va rien lâcher et qu'il y a effectivement mon parcours, mais je pense qu'il y a aussi ma personnalité qui fait que j'occupe ce poste-là. C'est pas... on n'a rien sans rien et il faut rien lâcher. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Tu lâches rien. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on m'a recrutée à ce poste-là.
Est-ce qu'il est plus difficile de devenir directeur quand on est une femme ?
Ouais. En fait, on est tellement exigeant avec soi-même. Moi, je passe beaucoup, beaucoup de temps à travailler, mais parce que je me dis que... déjà, parce que la cause est belle, déjà. On n'a pas le droit de décevoir notre population. Parce que je dis toujours, on n'a pas le droit. Pour moi, c'est... pour moi, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, c'est viscéral. C'est-à-dire que je me lève le matin en me disant j'ai pas le droit de lâcher ou j'ai pas le droit de décevoir nos gamins qui viennent à la mission locale. Donc ça, moi, j'en suis extrêmement convaincue. Et donc, du coup, tu te mets une pression. Pression qui est énorme. Et puis après, tu as la psychiatrie locale qui rajoute à ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que être une femme, déjà, on n'a pas le droit de faiblir. Et peut-être que, pour certains, on pourrait ne pas être légitime à avoir ce poste-là. Alors qu'on sait qu'on est légitime, nous. Mais le fait qu'ils ne sachent pas ce que tu fais, du coup, ils pensent être... Enfin, certains peuvent penser que d'occuper mon poste peut être facile. Ben, si demain, je pars, je leur souhaite bien du courage à ces hommes. Parce que je pense qu'il en faudrait plusieurs. Je pense qu'il en faudrait plusieurs.
Est-ce que vos origines ont été un frein ou une force pour votre carrière ?
Mes origines n'ont jamais été un frein. Ils ont toujours été une force. Pourquoi je te dis ça ? Parce que, évidemment, j'ai été discriminée. À plusieurs titres d'ailleurs, mais c'est une anecdote que je raconte parce que ma première expérience, vraie première expérience professionnelle, mon employeur m'a demandé de changer de prénom dans l'entreprise. Alors moi, je l'ai dit, je m'appelle Mina, donc voilà. Et en plus, c'est le prénom de ma grand-mère, donc autant te dire que j'y tiens. Et donc, il m'a demandé de m'appeler, je sais pas comment, bon bref. Et donc, du coup, parce que les clients ne voulaient pas... d'après ce qu'il disait, de personnes d'origine étrangère comme interlocuteur. Donc on a souhaité m'inventer un prénom, Jessica ou je sais pas quoi, bon bref, un prénom qui passe, il m'a dit, à l'époque. Et donc je n'ai jamais cédé, et j'ai toujours dit que je m'appelais Mina, et j'ai jamais cédé à cette pression qui a duré pendant 18 mois. Mina, et à la fin, donc, pour bien comprendre, ce gars-là m'a donné envie d'être la première le matin et la dernière à partir le soir. Il m'a donné envie de lui montrer que j'étais une excellente collaboratrice. Pas une bonne collaboratrice, une excellente collaboratrice. Et en fait, c'est pour ça que je le dis, c'est une force. Parce que ce gars-là m'a donné envie de me dépasser. Et en fait, c'est ma première expérience professionnelle. Et donc, du coup, j'ai fait en sorte d'avoir d'excellents résultats. Et en 6 mois, je crois, j'étais la première en termes de résultats dans l'entreprise. Il n'avait jamais vu ça. Et au bout des 18 mois, il me dit « J'aimerais vous cédéiser ». Et je me suis levée en lui disant que je ne pourrais pas travailler dans une entreprise qui n'avait pas les mêmes valeurs que les miennes. Et notamment, lui, ses valeurs que je détestais et rejetais au plus profond de mon être. Donc je me suis barrée avec le sourire et en me disant, voilà, je suis première, je suis arrivée, je ne connaissais rien du métier, aujourd'hui je suis première, et je pars en lui disant, voilà, c'est une personne d'origine maghrébine qui est arrivée première, alors que toi-même, tu m'as dit, quand je suis arrivée, parce que je suis arrivée par l'intérim, tu m'as dit, sans me regarder, il m'a dit, mais ils n'ont pas trouvé une Française à sa place. Sous-entendu, alors que je suis Française, évidemment. Mais, voilà, il a vu ma couleur de peau et mes origines. Il n'a pas vu qui j'étais. Et donc, du coup, je pense que c'est lui qui m'a donné envie, donc, dans toutes choses qui peuvent te peser à un moment donné, il y a du bien, parce que je pense que c'est grâce à lui qui m'a donné envie de combattre toutes ces causes qui sont, et ces combats qui sont les miens aujourd'hui.
Avez-vous déjà été la cible ou le témoin de propos sexistes ?
Bah oui, tous les jours. Hier encore, j'ai déposé mon fils au centre aéré. Ça, faudra pas en parler, parce que voilà. Mais je dépose mon fils au centre aéré et j'ai dit à mon fils, je ramène des gâteaux pour les animatrices. Et je dis à mon fils, voilà, il faut que tu souhaites à toutes les animatrices une bonne fête, etc., etc. Et les animateurs qui dit à mon fils me l'a répété le soir en disant, la place de la femme est dans la cuisine. Voilà, on appréciera tous et tous ce petit commentaire qui était censé être drôle. Bon, moi, je le juge aujourd'hui sexiste. Mais oui, enfin, tout le temps. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Hein. C'est un abus de faiblesse pour les hommes, hein, tu sais. Donc, en réalité, faut pas que ça nous touche. Pas du tout.
Avez-vous une devise personnelle ?
Rien lâcher. Rien. Jamais rien. Jamais rien, jamais montrer que t'es atteinte, jamais montrer qu'on te touche, jamais montrer que t'es faiblesse, jamais montrer... voilà, tu t'avances et tu lâches rien. Tu te lèves tous les matins en te disant « j'avance ».
Quelles sont les causes et valeurs qui vous semblent importantes ? Pourquoi ?
La jeunesse et les femmes. Les femmes, parce que tout passe par elles. Grâce à elles, on est là. Grâce à elles, on a fait avancer des grandes causes. Donc les femmes, pour moi, c'est une cause qui est on est tellement maltraités aujourd'hui dans tous les pays du monde, hein, mais la maltraitance elle est variée, elle est diverse. Donc les hommes ont un grand rôle. Et vous êtes les hommes de demain. Respectez la femme, le respect. Déjà, le respect, il va de soi. Mais il faut respecter les copines de classe, respecter vos sœurs, respecter votre mère, respecter la femme. Peu importe qu'elle soit dans ton entourage ou quoi, il faut la respecter. Ne jamais lui faire du mal. Ne jamais la faire souffrir. C'est aussi ça. C'est dans les deux sens. On ne demande pas plus que les hommes. C'est pas ce que je dis. Mais on demande le respect. La femme n'est pas le sexe faible. Mais le comportement des hommes fait qu'on peut penser que la femme, elle est inférieure à l'homme. Eh bien non. La femme, c'est l'égale de l'homme. Et je passe un message aux filles, parce que ça, c'est hyper important. Ne laissez jamais croire que vous êtes inférieure. C'est-à-dire que c'est une posture aussi à avoir. Je parle souvent de posture, mais dans votre comportement, ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que vous êtes inférieur. Non. Vous n'êtes pas supérieur, mais vous n'êtes pas inférieur. Et ça, c'est hyper important. Ne laissez jamais un homme vous maltraiter, mal vous parler. Ça n'existe pas. Et je demande aux hommes de ne jamais mal parler aux meufs. Impossible. Mettez-vous ça dans la tête. L'irrespect, ce n'est pas possible. Et ne vous laissez jamais manquer de respect. Jamais. Et entre filles, quelquefois, vous êtes dures des fois, entre filles, non, on ne doit pas se comporter comme ça. On ne peut pas dire aux mecs de pas nous manquer de respect et entre nous, de se manquer de respect. Non, il faut être juste. Donc ça veut dire, on demande aux hommes de ne pas nous manquer de respect, mais entre vous, ne vous manquez pas de respect. Ça, c'est hyper important. Donc ça, la cause des femmes, c'est mon combat et je pense que je mourrai avec. Et la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est notre avenir. Et donc quand c'est notre avenir, il faut s'en occuper et bien s'en occuper. Parce que déjà, c'est vous qui allez payer ma retraite. Donc c'est votre génération qui paiera ma retraite. Donc il faut que qu'on s'occupe bien de vous. Mais parce que elle est riche, parce que notre jeunesse est riche, elle est multiculturelle et c'est extraordinaire. Les origines ne sont pas un frein, c'est un atout extraordinaire. Donc il faut vraiment que vous en ayez conscience, vraiment. Donc moi, la jeunesse, je veux la chérir. Chaque instant que Dieu fait, je la chérirai jusqu'au bout.
Quel conseil donneriez-vous aux jeunes pour leur avenir ?
Rêver chaque jour. Tout le monde a un rêve. Et si t'en as pas, tu t'en fabriques, hein. Parce que la jeunesse, elle a besoin de rêver.